Bien-aimés, nous allons consacrer la première partie de cette matinée à écouter encore ce que nous dit la parole par ce prophète Jonas. Seigneur, nous voulons être de ceux qui croient éperdument que là où deux ou trois sont assemblés, en ton nom, tu es là, au milieu de nous. Fais-nous oublier toute autre chose. Et dès cet instant, absorbe-nous dans la contemplation de ta personne, de Jésus au milieu de nous, de Jésus le centre de notre culte, l'objet de notre adoration, et que par ton esprit, tu ouvres nos cœurs, et que tu mettes aussi sur nos lèvres des cantiques de louange et d'action de grâce, et des paroles exprimant réellement les pensées les plus profondes de nos cœurs, pour te dire merci de tout ce que tu es et de tout ce que tu fais en Jésus-Christ. Amen. Mes amis, je vous relis quelques versets à la fin du chapitre 3 de Jonas et au début du chapitre 4. Dieu vit, verset 10 du chapitre 3. Leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire, et il ne le fit pas. Mais Jonas trouva cela très mauvais, et il fut irrité. Et il pria l'Éternel et dit, « Éternel, je te prie, n'est-ce pas là ma parole, quand j'étais encore dans mon pays ? » Ma parole, mon pays. C'est pourquoi j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est miséricordieux, lent à la colère et grand en bonté, qui te repent du mal dont tu as menacé. Et maintenant, Éternel, je t'en prie, prends-moi ma vie, car mieux me vaut la mort que la vie. L'Éternel lui dit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville, et il s'assit à l'orient de la ville, et il se fit une cabane. Et il s'assit dessous, à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait à la ville. Que Dieu bénisse cette parole, qu'elle trouve le chemin de nos cœurs et de nos consciences, et qu'elle ne retourne pas à lui sans avoir produit tout son effet. Dans cette matinée du 10 février, oui, c'est encore de Jonas que je dois vous parler. Le Seigneur me l'a montré à mon réveil, ce matin. Je ne pensais pas revenir sur ce livre. Mais il m'a montré que je devais revenir avec vous sur quelques-unes de ces paroles avant que nous nous adonnions à la louange. Et je voudrais vous poser une question, très affectueusement. La vie de Jonas vous a-t-elle appris quelque chose? En tout cas pour moi, comme tout à nouveau, cette vie de Jonas que j'ai revue avec vous, elle m'a appris à me connaître, comme tout à nouveau. Pour repartir d'un pied neuf. Figurez-vous qu'après avoir expérimenté que son salut venait de l'Éternel, parce qu'il l'a dit cette phrase. Hein. À la fin de sa prière, il dit « Le salut, la délivrance vient de l'Éternel ». Et ça, il l'a expérimenté. Être délivré du sein du poisson, du ventre du poisson, et être rejeté sur la terre vivant, il a expérimenté que ce n'est pas lui qui s'est sauvé. Hein. C'est le Seigneur qui l'a sauvé. Le salut vient de l'Éternel. Et il a été restauré. Et puis, vous avez vu qu'il a été employé d'une façon extraordinaire par Dieu, alors qu'il pouvait se croire totalement rejeté. Il devient le plus grand évangéliste du monde, car c'est par la parole qu'il a apportée aux Ninivites que ces gens se sont convertis à Dieu. Et c'était des païens. Eh bien, en voyant cela, la tournure de son ministère parmi les païens, en voyant que Dieu n'accomplit pas le jugement qu'il a annoncé, Jonas est irrité, Jonas est mécontent, Jonas est contestataire. Et comme nous le disions hier, il ressemble à un vrai Caïn. Après avoir voulu fuir Dieu, après s'être même séparé des matelots sur le navire et être descendu, au fond, pour être seul, hein, dans la cale du navire, eh bien, cet homme qui avait dû être jeté à la mer pour être enfermé ailleurs que dans la cale, hein, mais enfermé dans le ventre d'un poisson pour y méditer un petit peu sur lui-même, pour apprendre dans le silence les leçons de Dieu, bien cet homme qui a fait de telles expériences et qui sait la valeur du silence, cet homme qui vient d'être employé pour la conversion de Ninive, il n'est pas heureux. Et je voudrais vous demander, vous, à la fin de cette retraite, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas heureux? Parce que vous êtes encore centré sur vous-même. Vous avez vu Jonas, moi, ma parole, c'est plus la parole, c'est ma parole, c'était bien ma parole. C'était mon pays. Mon pays, quel est votre pays? Jonas n'est pas heureux, et pourtant, et nous, ce matin, est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous pouvons, avec joie, aller à la table du Seigneur? Ou bien, est-ce que nous serons semblables à ces gens qui sont réveillés à l'aube pour aller, comme ça se faisait en France autrefois, à la guillotine? Un homme de mes amis regardait les gens qui se levaient pour aller à la table de communion, puis il a fait cette réflexion, des vrais condamnés à mort. Quelle tête ils ont pour aller à la table du Seigneur, qui les invite, le Seigneur qui les invite. On dirait des condamnés à mort qui s'en vont, et non pas des morts vivants, des ressuscités. Le signe de Jonas, c'est la résurrection. Comment est-ce que nous nous approcherons de la table du Seigneur? Est-ce que nous connaissons la vie du ressuscité? De Jésus, est-ce que nous voyons Jésus debout pour nous à la droite de Dieu? De sorte que Dieu ne nous voit qu'à travers la personne de Jésus. Dieu ne vous voit plus tel que vous êtes. Mais vous êtes en train de vous regarder, puis c'est pas heureux. Hein. Finissez-en de vous regarder. Regardez le Seigneur. C'est lui qui est votre vie. Et Dieu ne vous voit qu'à travers les perfections de son Fils. Si vous voulez savoir comment Dieu vous voit ce matin, regardez le Seigneur. Il est là, après avoir été couvert de tous vos péchés. Il est ressuscité. Il est sans péché. Debout à la droite de Dieu, il a apporté son sang est là, qui est la purification de tous nos péchés. Dieu ne s'en souvient plus, et Dieu nous regarde ce matin à travers son Fils. Vous êtes agréable dans le bien-aimé. Mais si vous n'êtes pas heureux, c'est que vous ne regardez pas le Seigneur, c'est que vous regardez encore le nombril. Vous êtes encore devant vous-même, préoccupé de vous-même, centré sur vous-même. Qu'est-ce que c'est renoncer à soi? C'est changer de centre. C'est ça la grande délivrance. Renoncer à soi, c'est changer de centre. Et prendre quel centre? Jésus. Jésus, notre vrai centre. Alors on commence d'être heureux. Jonas, oui, il avait dû accepter le pardon pour lui, car il a accepté le pardon pour lui. Vous aussi, vous l'avez accepté le pardon pour vous. Un jour dans votre vie, vous avez accepté le pardon de Dieu. Mais est-ce que vous acceptez maintenant que Dieu pardonne aux autres? Quel est l'obstacle? Au fond, à vos prières. Jésus nous a enseigné que si nous ne pardonnons pas, Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Et il dit que quand tu veux t'approcher de la table du Seigneur, quand tu veux offrir au Seigneur ta louange, et que tu te souviens tout à coup que tu n'as pas pardonné vraiment à ton frère, à quelqu'un, c'est peut-être ton frère de droite, de gauche, hein, ou à une personne quelconque, tu n'as pas pardonné, eh bien, oui, moi, Lyon devrait être mieux attaché. C'est peut-être parce que Dieu voulait un moment de silence. Si vous n'êtes pas exaucé, est-ce que c'est parce que peut-être vous n'avez pas pardonné? Vous voudriez être exaucé? Bien, pardonnez. On vous dit, mais j'attends qu'il me demande pardon. Ou qu'elle me demande pardon. Faites le premier pas. Vous dites, mais c'est pas moi qui avais tort. Vous croyez qu'on n'a pas de tort? On a toujours quelque tort. Et c'est cela que nous devons accepter. Est-ce que nous acceptons aussi de reconnaître nos torts? Vous dites, mais j'y ai déjà pardonné, mais il a recommencé. Puis vous vous dites évangélique? Combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Sera jusqu'à 7 fois? Demande Pierre à Jésus, non pas 7 fois, 70 fois, 7 fois. Ça veut dire tout le temps. Donc ça veut dire que les autres commencent et qu'il faut encore les supporter, puis qu'il faut encore de nouveau leur pardonner. Vivons dans l'esprit de pardon. Si Dieu n'avait pas l'esprit de pardon, il y a longtemps qu'on serait exterminé. S'il ne pensait qu'à lui-même, je vous cite encore ce verset de Job, et qu'il retirait son esprit et son souffle, toute chair expirerait en sang. Alors nous voulons être de ceux qui pardonnent. Et vous savez, C'est comme ça qu'on est heureux, quand on n'a pas d'amertume. Mais Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la ville. Il sait que Dieu est un Dieu de pardon. Mais justement, parce que Dieu est un Dieu de pardon, parce qu'il pardonne aux autres, mais Jonas n'est pas content. Alors maintenant, il sort de la ville. Sur le bateau, je l'ai déjà montré, il s'est désolidarisé des matelots. Il était descendu dans la cale. Maintenant, il se coupe des Ninivites. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ces gens que j'ai évangélisés. Il se coupe des Ninivites. Mais pourquoi est-ce qu'il est sorti de la ville? Parce qu'il se prend pour un saint. Un séparé. Qu'est-ce que veut dire le mot saint? C'est séparé. Mais il se sépare. Jonas pense qu'il est un saint. Et qu'est-ce qu'on fait aux saints? On leur fait des niches. Et lui, il s'en fait une. Il se fait une niche, une cabane. Et il sera dans sa niche. Le saint Jonas, dans sa petite niche, dans sa petite cabane. Le seul. Je suis resté le seul. Je suis dans ma niche maintenant. Puis de ma niche, avec mes yeux de verre, je regarde. Je vais regarder ce qui va arriver aux autres. Il est dit que Jonas sortit et puis qu'il s'assit. Et voyez-vous, une église qui sort du monde, elle ne sert à rien. C'est Jésus qui l'a enseigné. Il a dit à ses disciples, et il a dit au Seigneur, il a dit à son Père dans sa prière, « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. » Nous avons un témoignage à rendre où? Dans le monde. Pas simplement, oh, moi je rends témoignage à la séparation. Je me suis séparé de tous les autres et puis je suis là, dans ma niche, dans ma cabane. C'est le seul coin propre. Puis de là, je regarde ce qui va arriver. Je suis séparé. Un serviteur de Dieu, il n'a pas le droit de s'asseoir. Un chrétien, il n'a pas le droit de s'asseoir. Un chrétien, il n'a pas le droit de sortir du monde. Il est dans le monde. Et ce qu'il lui est demandé, c'est de rendre témoignage dans le monde. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Il est proche de toutes les âmes, mais il est séparé de toutes les souillures. Jésus était proche de toutes les âmes. Il pouvait même toucher un lépreux sans avoir la lèpre. Vous ne devez pas avoir peur de la contagion. Si vous êtes en Dieu, si vous êtes de Dieu, vous pouvez être un témoin dans le monde. Ne pensez pas que, non, ça pourrait me contaminer, ces contacts-là. Il faut que j'aille dans ma petite cabane, moi. Puis de là, je regarderai. Un homme de Dieu, un chrétien, il ne s'asseye pas, et puis, c'est un homme qui marche. Voyez-vous, s'enfermer dans notre cabane, s'enfermer, c'est de la lâcheté. Quelqu'un qui s'enferme, c'est un homme qui a peur. C'est quelqu'un qui est lâche. Et la lâcheté, c'est un péché. Les lâches, où les trouvons-nous dans le catalogue d'Apocalypse, où nous voyons ceux qui seront dans les peines éternelles? Quant aux lâches, quant aux timides, ceux qui n'ont pas osé rendre témoignage seront dans les temps de feu et de soufre. Donc s'enfermer, je sais, c'est une lâcheté. C'est un péché. Mais ce qui est encore plus criminel, c'est de vouloir s'enfermer avec Dieu. Ben, s'enfermer avec Dieu, dire, mais Dieu, il est pour moi maintenant, c'est moi qui l'ai, Dieu. Ça, c'est un crime. Dieu, il n'est pas seulement pour vous. Il est pour tous les hommes. Dieu, il est le Père de tous. Alors Jonas s'est assis pour voir, je l'ai dit ce matin, Dieu n'a que faire de voyeurs. Ne devenons pas des voyeurs. Il veut des serviteurs. Souvenez-vous de cela, il ne veut pas des voyeurs, des gens qui regardent ce qui va arriver aux autres. Parce qu'on les a avertis. Il veut des serviteurs. Non, des gens qui se construisent leur cabane hors de la ville, parce que j'ai accompli mon ministère maintenant. J'ai besoin de mon repos. Alors, je me suis construit ma cabane. J'ai mon petit club. Voyez-vous, la cabane de Jonas, c'est la condamnation des Ninivites. Condamnation à mort. C'est le refus de porter secours à des personnes en danger. Si personne n'y sont en danger. Encore 40 jours. Mais voilà, les Ninivites, espérant le salut, eh bien, travaillent, ont des œuvres qui manifestent la réalité de leur foi. Ce n'est pas les œuvres qui vont les sauver, mais c'est leur foi. Ils ont cru Dieu. Mais leur foi, ils l'ont exprimée par la repentance. Ils ont montré par tous ces signes extérieurs de leur tristesse qu'ils se repentaient vraiment de leur péché. Alors, qu'aurait dû faire Jonas? Au lieu de s'asseoir et de regarder, parce que c'est pas fini. Qu'aurait fait Abraham? Qu'a-t-il fait quand il a su que les anges étaient en marche pour détruire Sodome? Il s'est jeté à genoux, il s'est pas assis, en disant, ben bon, Lot, il va avoir une drôle de surprise. Il va avoir une drôle de surprise, mon neveu, qui a fait le mauvais choix. Qui m'a laissé dans la montagne, qui a pris le meilleur pour lui. Bien, il n'a que ce qu'il a semé. Non, il se jette à genoux, il prie, il supplie. Nous n'allons pas assister au jugement du monde. Nous allons prier pour que le monde soit sauvé, pour que les âmes soient sauvées. C'est pas fini le travail. C'est pas fini. Nous allons, même si Dieu pardonne, je vais continuer de prier. Je ne vais pas enfermer Dieu dans ma cabane. Parce que vous voyez, au fond, c'est très actuel. Qu'est-ce que le catholicisme a fait avec Dieu? Où l'a-t-on enfermé? On l'a enfermé dans le tabernacle, puis dans l'hostie. Voilà ce que le catholicisme a fait. Bien, s'il y a quelqu'un qui croit à la présence réelle du Seigneur et dans le pain et dans le vin, c'est moi. Je crois à cette présence réelle du Seigneur dans ce qu'il a choisi pour nous dire « Fais ceci en mémoire de moi ». C'est lui qui a dit cela. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Je n'ai pas à donner des explications. Je n'ai pas à donner des définitions sur ce que Jésus a voulu dire. Les gens ont été scandalisés. Mais il a dit cela. Eh bien, j'accepte ces paroles. Mais ce que je n'accepte pas, c'est de penser que le Seigneur se laisserait emprisonner par des mains humaines qui pourraient disposer de lui selon leur fantaisie. Ce n'est pas un homme qui rend Dieu réel dans l'hostie. ou qui changerait, qui aurait reçu le pouvoir de transformer et le pain et le vin en corps et en sang du Seigneur. Mais ce n'est pas que des symboles, cela. Et je le dis avec force. Je ne peux plus entendre cette phrase. C'est des symboles, donc c'est pas grand-chose. C'est manger un peu de pain et boire une gorgée de vin. C'est réellement communier parce qu'il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, il me donne ces éléments pour que ma communion soit réelle. Car c'est lui qui donne le pain et c'est lui qui fait croître la vigne. Et nous recevons cela de sa main. Non pas de la main d'un prêtre, non pas de la main d'un pasteur, non pas de la main d'un homme, mais de la main du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, vous irez vous-même à sa table. Invité par qui ? Par le Seigneur. Et vous prendrez vous-même cette portion de pain et cette gorgée de vin en pensant que réellement vous avez communion au corps et au sang du Seigneur. Mais, je le répète, Dieu ne se laisse pas enfermer dans une hostie. Ça, c'est l'erreur du catholicisme ou du romanisme. Mais l'erreur du protestantisme, et je dirais aussi du milieu évangélique, c'est d'avoir enfermé Dieu dans quoi ? Dans un livre. On a enfermé Dieu dans le livre. Et en dehors du livre, c'est comme si Dieu n'existait pas. Il faut vraiment le livre pour être en contact avec Dieu. S'il y a quelqu'un, et je pense que vous n'en doutez pas, qui croit à l'inspiration des Écritures, et qui croit que l'on trouve le Seigneur, qu'il se révèle dans toutes les Écritures, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, c'est bien moi. Je crois à un Dieu qui se révèle dans les Écritures. Mais je n'enferme pas Dieu dans les Écritures pour dire « Tous ceux qui n'auront pas eu la Bible sont perdus. » Vous croyez à cela, vous ? Que des gens qui n'ont pas eu la possibilité que vous aviez d'avoir la Bible pour y rencontrer Dieu, eh bien que tous ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas eu la Bible, Dieu n'a pas pu se révéler à eux. Alors avant qu'il y ait la Bible, il y avait des hommes pourtant. Alors ils sont tous perdus. Dieu ne se laisse pas enfermer, ni dans nos chapelles, ni dans nos temples, ni dans ce que l'on appelle, dites-moi le mot, le tabernacle. Hein. Dieu, il est au-dessus de tout. Il fait ce qu'il veut dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et puis où encore ? Jusque dans les abîmes. Dans les abîmes, il n'y a pas de Bible, des fois. Job, est-ce que vous croyez qu'il a été sauvé ? Quelle Bible est-ce qu'il a lue ? C'était avant Moïse, c'était avant la loi. Dieu ne se laisse pas enfermer, et c'est cela que vous devez saisir. Ne pensez pas que vous pouvez l'enfermer. Et que vous pouvez le garder seulement pour vous. Dieu sauve aussi les hommes sans Bible. Vous l'avez appris par cœur. Dieu fait ce qu'il veut. Et il ne se laisse pas lier ni enchaîner par nos préceptes et par nos dogmes. Parce qu'on a des dogmes, puis on a des préceptes. Hein. On y tient. Et puis, si vous ne dites pas chibolette comme tout le monde, si vous avez un autre accent, vous n'êtes pas des purs. Vous croyez que c'est vrai, ça ? C'est ça, votre Dieu ? Quel petit Dieu ! Comme il est étriqué. Dieu est le Père de tous. Voilà le vrai Dieu. Le Dieu que Jésus-Christ nous a fait connaître. Ce Jésus-Christ qui lui révélait le Père et qui se réjouissait devant la foi d'un païen. Et qui disait, ce centurion-là, qui est pourtant païen, je vous le dis, moi j'ai jamais vu en Israël une aussi grande foi. Vous savez, je l'ai souvent rappelé au cours de mon ministère. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est pas quelque chose, c'est pas une formule. La vérité, c'est quelqu'un, c'est une personne. J'ai communion avec une personne. Par-delà les éléments pain et vin, j'ai communion avec quelqu'un, avec une personne. Et dans la Bible, c'est la même chose. C'est le Seigneur que je trouve. C'est le Seigneur que je cherche. Mais je sais bien que le Seigneur n'est pas enfermé dans le livre et que je peux même ne pas avoir le livre et par son esprit l'entendre me parler. Mais ce qu'il me dit n'est pas contraire à ce que je trouve dans le livre. C'est pourquoi c'est un privilège infini d'avoir le livre, parce qu'on peut contrôler si ce que l'on entend est vraiment du Seigneur. Dieu ne se laisse pas enfermer. Dieu est un Dieu qui sauve. Et qui sauve les païens. La vérité, c'est quelqu'un. Et pour vous montrer que ce n'est pas une formule, je le répète même pour ceux qui l'ont déjà entendu de ma bouche plusieurs fois, la formule chimique de l'eau qui est exacte, c'est H2O. Mais quand vous êtes dans le désert, avec votre connaissance de la formule chimique de l'eau, vous êtes dans un désert, si vous mourrez de soif, mais vous avez la formule, alors vous êtes sauvé. Elle est juste. Alors vous commencez H2O, 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 puis voilà, la pluie tombe. Non. Avec votre connaissance de la formule exacte, vous périrez. Tandis que le bédouin qui n'a pas eu ses privilèges d'être dans les grandes écoles où on lui aurait appris cette formule chimique, lui, qui sait où est l'oasis, qui sait où est le puits, sans la connaissance de la formule, il vivra parce qu'il connaît où se trouve l'eau. Alors, nous-mêmes, est-ce que nous avons seulement des formules, des dogmes, des phrases exactes, des définitions exactes? Est-ce que c'est ça qui va nous faire vivre, ou bien est-ce que c'est la connaissance de quelqu'un, la connaissance d'une personne? Voyez-vous, c'est cela que je voudrais souligner. Souvenez-vous toujours de cela. La vérité, c'est quelqu'un. Qu'est-ce que la vérité, disait Pilate? Il l'avait en face de lui. C'était Jésus. C'était Jésus. Et bien que nous puissions voir Jésus et Jésus seul. Dieu ne se laisse pas lier, même par l'Écriture. Il est dit, il était dit que Dieu ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Est-ce qu'ils étaient coupables, les Ninivites? Hein? Est-ce qu'ils étaient coupables? Oui, ils étaient coupables. Alors la parole de Dieu devait les condamner. Dieu, c'était écrit. Mais si Dieu voit qu'ils se repentent, qu'est-ce que Dieu veut faire? Malgré qu'il a écrit cela, malgré qu'il a fait dire cela par les prophètes, il peut faire autrement que ce qui est écrit. Dépasser la lettre qui tue. Ne restez pas des littéralistes pour juger les autres. Dieu est esprit. La lettre, elle, tue. Mais l'esprit y vivifie. Alors laissez à Dieu sa liberté. Ne liez pas à Dieu, à vos idées, à vos concepts et même aux paroles bibliques. Oui, ce sont ces paroles bibliques que je dois prêcher. Je n'ai pas le droit de prêcher autre chose que dit la Bible. Mais j'ai le droit de penser aussi que Dieu peut faire encore autrement. Infiniment au-delà de tout ce qui est écrit. C'est pour ça que nous aurons des surprises dans le ciel. Alors vous allez me dire, ben, vous êtes sur une pente dangereuse. Alors si c'est vrai tout cela, à quoi ça sert d'évangéliser? Si vous nous faites supposer que peut-être ce Dieu qui s'est si souvent repenti, vous rendez compte si tout à coup il lui arrivait d'avoir l'idée, lui qui a insisté sur les peines éternelles que moi je dois prêcher, si Dieu à un certain moment, trouvait bon de pardonner à tous. Oh ben, vous ne voudriez pas qu'il pardonne à Hitler? Vous ne voudriez pas qu'il pardonne à tous ces mécréants qui ont commis tant d'injustices, qui ont fait souffrir tant de personnes? Vous ne voudriez quand même pas qu'il leur pardonne? Ce serait une injustice criante. Vous n'avez jamais compris que le Seigneur a déjà des fois voulu nous préparer à ce que les choses se passent un peu autrement que ce qu'il avait dit? Vous n'avez pas compris encore cela? Vous allez dire, mais M. Racine, il est vraiment en danger. Non, je crois à tout ce que la Bible dit. Je crois aussi que ceux qui refusent la grâce, eh bien, ils se condamnent à la perdition éternelle, à une éternelle séparation de Dieu. Je ne crois pas à des flammes réelles. Je crois justement que ce feu qui les brûle, c'est un feu d'amour. Mais comme celui qui n'a pas pu se marier, hein, et qui brûle. Il aurait mieux valu se marier que de brûler. Hein. Mais voilà, si vous ne voulez pas l'union aujourd'hui avec le Seigneur, vous brûlerez. Et vous brûlerez d'amour de l'autre côté, mais sans pouvoir connaître cette satisfaction, ce bonheur. Vous réaliserez que c'est trop tard, que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que vous avez manqué le but. Et c'est ça le péché, c'est de ne pas avoir aimé quand vous deviez aimer. Alors après, c'est trop tard. Éternelle séparation. Et c'est ça que je dois dire. Hein. Mais mes amis, pour vous montrer si vous avez compris quelque chose du message de Jonas, on est maintenant devant Dieu. Ou disons, derrière la porte. La porte va s'ouvrir, mais enfin, on est des élus. Puis la porte ne s'ouvre pas tout de suite. Puis on se demande pourquoi on est un tel patient, nous. On a tellement travaillé dans ce monde, hein, pour le Seigneur. On a fait tellement de séries d'évangélisation, on a parlé à tellement d'âmes, on a toute notre liste avec nous. Le nombre de personnes que j'ai contactées, que j'ai invitées à des réunions, le nombre de personnes auxquelles j'ai donné des traités, tout cela, mais c'est ça, continuez de donner des traités, continuez de contacter les âmes. Mais faites attention hein, de ne pas vous rassurer avec votre liste. Pour aller présenter vos comptes au Seigneur, d'abord il pourrait y avoir des soustractions. Parce que vous avez vu que les mathématiques du ciel sont différentes hein, de celles que vous croyez faire. Hein, mes amis. Voilà qu'on attend, on attend. Puis tout d'un coup, s'il arrivait que l'archange vienne nous dire, vous savez, Dieu a décidé de pardonner à tous et d'enlever les peines éternelles. Vous allez dire après, M. Racine, il nie les peines éternelles. C'est pas ça que je voulais dire. Mais s'il arrivait à Dieu, qui s'est repenti tant de fois des jugements qu'il avait annoncés, de dire, eh bien, mon fils a souffert tellement que vraiment, c'est le rachat des péchés de l'humanité tout entière, et maintenant, pardonne à tous. Qu'est-ce que vous diriez? Vous feriez vos petits Jonas. Vous voudriez redescendre. Mais où? Oh ben non alors, ça valait bien la peine que je me sois privé de tout ce dont je me suis privé. Oh. Maintenant je redescends sans parachute, quitte à me briser bras et jambes. Alors d'un Dieu comme ça, d'un Dieu qui pardonne aux autres, à ces gens-là, à ces mécréants, hein? Vous êtes étonné de l'irritation de Jonas, mais est-ce que vous seriez pas peut-être irrité que ça se passe comme ça, en finale, que Dieu qui a pourtant écrit cela, malgré que c'est écrit, il dise, ça c'est mon affaire, je suis Dieu, Dieu est Dieu, et d'aucune de ses actions, il n'a à rendre compte. C'est ça, adorer. Adorer, c'est se prosterner. Prosternez-vous N'essayez pas de définir Dieu. N'employez pas la parole pour disséquer Dieu. Hein, parce que c'est ça qu'on fait, nous, les chrétiens. On met Dieu sur le billard, et avec la parole, on le dissèque. On fait toute une leçon d'anatomie avec Dieu. La parole, on l'emploie pour disséquer Dieu. Tandis que la parole, on devrait l'employer pour nous disséquer nous-mêmes. Elle doit nous juger nous-mêmes. Dieu est Dieu. Il fera ce qu'il voudra. Alors vous me direz, mais tout ça, c'est bien dangereux. Alors, ça ne servait à rien d'évangéliser. Mais continuez d'évangéliser. Pour quelle raison? Parce que c'est un ordre du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit avant de s'en aller au ciel? Allez dans tout le monde, faites des disciples de toutes les nations, leur enseignant toutes les choses que je vous ai ordonnées, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant toutes les choses que je vous ai commandées. Mon ordre à moi, ce que j'ai reçu de lui, c'est que je dois enseigner toutes ces paroles, les peines éternelles aussi. C'est ce que je dois prêcher, que si tu t'endurcis, si tu ne veux pas le Seigneur, tu seras condamné, qu'on doit prendre Dieu au sérieux. Mais si j'envisageais même que Dieu pardonne aux autres, qui ont refusé mon évangélisation, je les ai vus me tourner le dos, je les ai vus me déchirer le traité que je leur ai donné, et je me suis dit, ben... quand ils seront en enfer, ils penseront à ce traité. Ils n'ont pas voulu de moi. De moi. Ils y penseront. Alors que Jésus, lui, quand il voyait quelqu'un qui ne voulait pas le suivre, je l'ai dit souvent, hein, le souvenir qu'il laissait à ceux qui ne voulaient pas le suivre, c'était quoi? Un regard d'amour. Jésus, ayant regardé l'homme riche, il l'aima. De sorte que ce regard d'amour qu'a conservé le jeune homme riche, c'était par ce regard qu'il a été converti plus tard, quand il a perdu son fric, son argent, hein, quand il l'avait plus. Ce qui l'empêchait de suivre Jésus, c'était son attachement à l'argent. Puis tout d'un coup, il a plus ça. Alors il est dans la détresse comme le fils prodigue, quand il eut tout dépensé, il est dans la détresse. Et qu'est-ce qu'il pense? Il pense à son père. Il pense à son père. Frères et sœurs, que le Seigneur nous parle. Et je termine pour bien vous montrer ce que le Seigneur m'a montré ce matin. Si je m'irrite, si je ne suis pas content parce que je ne comprends pas que Dieu il dit cela et qu'il ne le fasse pas, et puis alors moi justement je risque d'être un faux prophète, mais alors tous ces serviteurs de Dieu qui ont donné leur vie, qui ont même donné leur sang, alors ça servait à quoi? Ça a glorifié le Seigneur. Puis vous rendez-vous compte que, au fond, votre salut, c'est pour quand que vous le voulez? Pour l'au-delà? Pour la mort ou bien pour la vie? Ceux qui acceptent l'Évangile, est-ce que simplement ils acceptent pour ne pas aller en enfer? Si c'est ça, votre salut, c'est pas intéressant. Parce que vous n'irez pas en enfer, mais les autres iront. Hein. Et moi, je suis sauvé pour ne pas aller en enfer. Non, je suis sauvé pour vivre sur la terre à la gloire de Dieu. Pour ne plus tuer, pour ne plus commettre adultère, pour rester fidèle à ma femme, malgré toutes les tentations que nous pouvons avoir, pour rester fidèle à mon mari. Je suis sauvé pour vivre à la louange et à l'honneur de Dieu. Je suis sauvé pour la terre. Je ne suis pas seulement sauvé pour la gloire éternelle. Je suis sauvé pour être un témoin maintenant. Je suis sauvé pour être vivable aujourd'hui auprès des gens qui sont encore dans le monde. Mais souvent, nous les chrétiens, nous sommes invivables. Contacter des chrétiens, quelquefois, ben c'est presque impossible. Parce qu'on est devenus des personnages bizarres. On n'a plus voulu d'un pape, mais on est devenus des petits papes. Ou des soupapes. en tête ou latérale, peu importe. Hein. Mais enfin, il y en a un tas. Alors, tout ce qu'on a condamné dans l'autre église, on le réédifie dans nos églises. Et puis, on est de nouveau asservi à toute espèce de principes, de règles. La femme qui trouve encore bon de mettre un voile sur sa tête, on la critiquera aujourd'hui. On ne lui laisse pas même cette liberté. On lui dira, mais pourquoi tu mets un voile sur la tête? Et parce que moi, je comprends les choses comme ça, que Saint Paul l'a dit. Oui, mais ce Saint Paul, c'était du temps des Corinthiens, c'est plus pour maintenant. Vous avez ça aussi dans les milieux évangéliques. Pourquoi ne pas laisser cette liberté à cette femme qui estime qu'elle doit encore se couvrir la tête et que c'est un signe de sa soumission au Seigneur? Nous sommes devenus des gens invivables, des gens impossibles. Nous nous sommes construits nos cabanes, et puis nos cabanes, nous avons mis un petit règlement, hein, de nos principes à nous. Et si vous n'avez pas les mêmes principes, on vous fait sentir que vous êtes de trop. C'est vraiment du christianisme. Voyez-vous, le Seigneur veut vous rendre libre. Mais quand il nous rend libre, bien, il nous permet de supporter les autres. Il nous permet de penser que les autres peuvent avoir aussi raison, que ce n'est pas la lettre qui compte. Et que si telle personne estime que cette forme convient, bien, laissons-la libre. Pourquoi être des questionneux? Respectez les autres. Et puis, si on nous pose une question, ben, soyons toujours prêts à répondre avec douceur et crainte de la raison, de l'espérance qui est en nous. C'est dit que je termine. Le cœur est trompeur et incurable par-dessus tout. Jérémie, chapitre 17, verset 9. Qu'il connaît. Moi, j'admets pas que Dieu pardonne à ces mécréants, à un Hitler, à Eva Braun et d'autres. Hein, parce que je trouve que c'est impossible. Mais vous croyez que j'avais un cœur meilleur que celui d'Hitler, moi? Il paraît que j'y ressemblais autrefois. Parce que j'avais une mèche comme ça, puis j'avais une moustache un petit peu différente. C'est embêtant de ressembler à Hitler. Hein. Mais au fond, est-ce que vous croyez que j'avais un cœur meilleur? Qui est-ce qui m'a montré ce qu'était mon cœur, à moi, petit saint, qui avait peut-être déjà ma niche quand j'étais enfant? Celui qui m'a montré ce qu'il y avait dans mon cœur, c'est Jésus. Et je vous lis dans chapitre 7 de Marc, pour que vous ayez bien ça. Vous me direz si c'est un tableau de votre cœur. Or, Jésus se serait trompé. Hein. Dans le chapitre 7 de Marc, il nous montre que dans notre cœur, là, eh bien, il peut y avoir 13 choses. Vous n'avez pas le chiffre 13. Ben, il peut y avoir 13 choses dans votre cœur. Verset 20. Jésus dit, ce qui sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme, car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Oh, ben c'est trop. Vous en voulez moins? Vous prenez alors dans Matthieu. Vous en aurez 7. Mais vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Parce que dans les 7 sont résumés tous les autres. Matthieu, chapitre 15, verset 19. Car du cœur viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les vols, les faux témoignages, et les injures. Ce sont ces choses qui souillent l'homme, mais de manger avec des mains non lavées, ça ne souille pas. Parce que on accusait justement les disciples de ne pas s'être lavé les mains avant le repas. Voyez-vous, celui qui n'aime pas, dit l'Écriture, c'est un meurtrier. Celui qui dit qu'il aime Dieu, qu'il ne voit pas et qu'il n'aime pas son frère qu'il voit, c'est un meurtrier. J'ai appris que quand je n'aime pas, je suis un meurtrier. Puis j'ai appris aussi que je peux torturer les âmes. Oh, moi j'ai jamais torturé. Vous savez pas que je peux torturer ma femme? Pas parce que je la magane, comme vous dites. Mais il y a une autre façon de torturer les gens. Et je sais, je peux torturer. Celui qui n'aime pas. Alors Seigneur, donne-moi d'aimer. Car si je n'aime pas, je suis un meurtrier. Et aucun meurtrier n'entrera dans le royaume de Dieu. Alors je demande au Seigneur que la parole que nous avons lue ensemble soit vraiment une parole qui nous lave. On a besoin d'être lavé de bien des impuretés. Que cette parole soit un feu qui s'allume dans nos cœurs et que nous puissions rendre grâce. Avec feu, que nous puissions dire quelques mots à Jésus, mais quelques mots bien sentis, quelques mots qui nous poussent vraiment à l'adorer. Seigneur, tu dépasses tout ce que je pensais. Je vois que tout ce que j'ai pu vous dire, c'était que les bords de ces voies. Je n'ai fait qu'effleurer le sujet parce que je ne suis qu'un pauvre homme. Mais ce que Dieu peut vous dire encore ira tellement plus loin. Voici ces choses sont les bords de ces voies et combien faible murmure que nous en avons entendu. Mais que cela vous ouvre des avenues et que vous ne soyez pas de ces gens qui ont des œillères. Que votre cœur soit aux dimensions du cœur de Dieu. Cessez de construire votre cabane, d'avoir pour centre votre cabane. Ayez comme centre Jésus, sa personne. Et rencontrez les âmes autour de sa personne. Rencontrez les âmes en lui. Et vous, j'étais avec Jocelyn au but l'autre jour. On était à une réunion à Bourassa, et puis le jeune homme qui est venu nous chercher à la station de métro nous a dit, vous savez, j'ai un petit macaron ici, et il était mis Jésus sauve, ou je ne sais pas trop quoi, c'était très bien. S'il pense qu'il doit mettre ça, c'est bien pour lui. Mais il me dit, c'est embêtant parce que voilà que j'étais dans un restaurant, et puis il y a un pasteur, je ne vais pas vous dire de quelle église, c'est une église évangélique, qui a vu son macaron. Alors il dit, vous êtes un chrétien? Puis il dit, oui, je suis un chrétien. De quelle église êtes-vous parti? Il dit, ben, on a une église maison. Qu'est-ce que c'est une église maison? Il faut faire partie de tel groupe. Puis on voulait tout de suite l'entraîner. Hein? Chez nous, c'est là. Mais il commence. Pourquoi ne pas se réjouir? Mais tout de suite, il faut mettre l'étiquette. Puis tout de suite, il faut voir dans cette personne peut-être une âme qui va augmenter notre nombre. Au lieu de se réjouir de rencontrer une pierre qui n'a pas honte de la pierre et de prier pour cette âme comme on doit prier pour que le Seigneur l'éclaire, l'amène plus loin. Nous étions assez bouleversés, Jocelyne et moi, de voir la soif de cette vingtaine de jeunes qui nous avaient demandé pour qu'on les enseigne dans la parole de Dieu. Il y a des besoins, mais les gens ont peur qu'on les embrigade dans quelque chose d'abord. Plusieurs m'ont dit, on a tellement souffert d'un certain joug autrefois, qu'on a peur de se retrouver sous un autre joug. Alors, que nous soyons de ces âmes libérées. Ah, je crois à l'Église, je crois au rassemblement autour du Seigneur, mais à un rassemblement qui n'est pas sectaire. C'est pourquoi, en ce moment, je ne vous dirai pas que le Seigneur va dire que les immergés s'approchent de la table du Seigneur. C'est les immergés. Je vous dis que ceux qui ont entendu la voix du Seigneur aujourd'hui, qui l'ont entendu au plus profond de leur cœur, écoutent le Seigneur qui dit « Faites ceci en mémoire de moi. » Parce que je crois que le culte d'adoration, c'est la plus grande réunion d'évangélisation. Je l'ai dit souvent, et je le redis encore une fois. L'appel, il se fait à la table du Seigneur. Votre réponse, elle se fait à la table du Seigneur. C'est pas ma pression, c'est pas une musique douce qui va vous approcher. C'est la parole du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Et si même il y a des choses qui doivent encore se régler, il vous les montrera. Mais que rien ne soit un obstacle pour vous de répondre au désir de son cœur, faites ceci en mémoire de moi. Ah, je sais que si vous êtes catholique romain, vous n'avez pas le droit de participer à cette table parce que je ne suis pas un prêtre ordonné par l'Église romaine et par un évêque. Pour que vous ayez le droit, il faudrait faire venir un prêtre, selon Rome. Si vous êtes dans un milieu évangélique et protestant, si vous êtes vraiment catholique, votre Église ne vous permet pas. Et il n'est pas question que ce soit à nous qui vous permettions. Il est question que nous croyons que c'est le Seigneur qui est au milieu de nous. Et vous savez, j'ai fait une expérience invité dans un milieu catholique pour une grande célébration. Ils étaient arrivés à communier sous les deux espèces. J'avais deux évêques anglicans à mes côtés. Et puis, on ne savait pas que on aurait pu nous approcher. Moi, je ne l'ai pas fait. Alors, les deux évêques anglicans, voyant que je ne m'avançais pas pour communier, ne se sont pas avancés non plus. Puis, à la fin, la femme d'un médecin est venue vers moi, elle me connaissait, on s'était vu à Jérusalem. Puis, elle me dit, mais Gaston, pourquoi est-ce que vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas avancé? Je lui dis, mais je ne veux pas occasionner des ennuis à celui qui m'a invité, qui est un prêtre, qui est un supérieur. Et puis, il y a d'autres raisons encore, mais... Mais je me dis, mais c'est pas possible une chose comme ça. C'est pas possible. M'en va en parler. Ça ira jusqu'au cardinal. Alors, c'est le cardinal. Quand tout a été fini, elle me prend par le bras, puis on va vers le représentant du cardinal. Puis je lui dis, vous connaissez Gaston? Oui, 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 on se connaît. Mais dites-moi, si Jésus avait été là au milieu de nous, est-ce qu'il lui aurait donné la communion? Mais bien sûr qu'il lui aurait donné. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lui donner? Mais il pouvait la prendre. Mais vous savez bien ce qui est arrivé à Jérusalem, autrefois. Oui, mais... Alors, écoutez, Monseigneur, vous qui avez le bras long auprès du cardinal, faites que ça change. Oui. Non, mais c'est pour vous montrer qu'il y a souffrance partout. Hein. Il y a souffrance partout. Jésus avait institué la scène, la communion pour l'unité des enfants de Dieu. Puis nous, on en fait une table de désunion. C'est la manifestation de notre désunion. Eh bien, ne pensez pas que je vais tout aplanir, hein, mais je vous dis ceci, et ça nous le croyons avec plusieurs autres, c'est en se rendant compte de notre péché au sujet de cette unité que nous pouvons le plus faire avancer. L'unité du vrai corps de Christ, qui n'est pas des organisations mises ensemble, mais des vrais croyants groupés autour du Seigneur. Mais il faut que nous soyons sensibilisés à cette douleur. Et c'est comme ça que le travail se fait. Et que les gens se disent, mais non, c'est pas possible. Il y a autre chose. C'était pas la pensée de Jésus. Et bien maintenant, je vous dis ceci, que vous ayez affaire avec le Seigneur. Ce matin, et si vous vous sentez libre, parce que vous avez pris votre décision dans le Seigneur. Je veux suivre le Seigneur, je ne veux pas être mon petit Jonas qui juge. J'ai pardonné. Et maintenant, je veux répondre au désir de son cœur. Faites ceci en mémoire de moi. Ce n'est pas M. Racine, ce n'est pas un autre, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas une église qui m'invite. C'est le Seigneur. Vous n'êtes pas les invités d'une congrégation. Vous êtes les invités du Seigneur. Non pas à la table d'une église, mais à la table du Seigneur. Il n'y a qu'une table du Seigneur. Mais alors, cette table est en opposition à une autre table, qui est la table des démons, qui se trouve où? Dans les autres églises? Il n'y a que la table qui est dans ma cabane qui serait la bonne? Toutes les autres tables seraient des tables de démons? Non. La table des démons, elle se trouve dans le monde. Hein. Et qui est-ce qui préside? C'est le prince de ce monde. Alors vous ne pouvez pas avoir communion à la table du Seigneur le dimanche matin, et puis, dans les jours ouvrables, à la table des démons. Vivez alors dans la vraie séparation du mal et du monde, et alors vous serez vraiment en communion avec le Seigneur et tous ceux qui aiment le Seigneur en esprit et en vérité, et qui l'adorent. Amen.